Excellent. Ce sera le thème de l'amour. On va parler d'amour ce matin. Ah, non ? Oui, ça va venir. Bon, on commence à lire. Éphésiens 3, 14. À cause de cela, c'est l'apôtre Paul qui parle, je fléchis les genoux devant le Père. Et du coup, ce qu'on va lire, ça nous montre l'attitude de Paul. Ce qui va arriver, c'est simplement une prière, et une prière fervente de l'apôtre Paul. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, on ne va pas faire une étude exhaustive de ce passage, il faudrait des heures, c'est tellement riche. Mais on va se centrer sur la thématique de l'amour. Et je voulais commencer par deux citations. Une de Richard Wagner, je ne sais pas si vous aimez la musique, grand compositeur allemand, qui a dit « La nécessité de l'amour est la seule qui soit vraiment belle. Arriver à cette connaissance, telle est la tâche de l'histoire du monde. » C'est beau, non ? Une autre citation de Jean de La Fontaine. Vous connaissez, non ? La petite fourmi et la cigale. Tout l'univers obéit à l'amour. Aimez, aimez, tout le reste n'est rien. C'est aussi très beau. Et il y a quelque chose de vrai, bien sûr, dans ces citations. L'amour a de tout temps fait vibrer le cœur des femmes et des hommes, de l'humanité tout entière. On le retrouve dans toutes les sphères de la société, dans l'art, dont on a parlé, mais aussi dans le droit, dans des choses un peu plus légales. On va le retrouver dans l'économie, on va le retrouver dans les célébrations, les fêtes. On va le retrouver même jusque dans nos assiettes, dans la nourriture. Aimer est, je pense, la chose la plus puissante que l'humanité possède dans son être intérieur. J'ai envie de le redire, ça. C'est important. Aimer, c'est la chose la plus puissante qu'un homme et qu'une femme peut avoir à l'intérieur de soi. C'est une force qui nous pousse souvent à nous dépasser et parfois à essayer de faire l'impossible. Et bien sûr, la Bible nous parle beaucoup d'amour, de l'amour. Et elle en fait même un sujet central dans toutes les Écritures. On va prendre quelques citations de la Bible. 1 Corinthiens 16, 14. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Autrement dit, que rien de ce que vous faites ne soit fait sans amour. Colossiens 3, 14. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Tu veux être parfait ? Sois rempli d'amour. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Le problème, parce qu'il y a forcément un problème à un moment donné, c'est pas tant de s'accorder sur le fait, avec bien sûr, pardon, le problème avec la pensée du monde concernant l'amour, c'est pas tant de s'accorder sur le fait que l'amour est essentiel à la vie humaine. Je pense que très peu de gens diraient que non, c'est pas important. Le problème se situe dans la définition de l'amour et dans l'objet vers lequel je porte mon amour. Par objet, j'ai mis une définition, j'entends pas bien sûr la chaise, le meuble, mais c'est être l'être ou la chose à qui ou à quoi s'adresse l'amour, c'est ça l'objet. Ou alors, et c'est aussi ce vers quoi tendent les désirs, la volonté, l'effort et l'action, le but, l'objectif. Le monde, qui est étranger à la pensée de Dieu, va proposer, lui, une définition et un objet de l'amour. Une définition, par exemple, ça peut être que c'est un sentiment agréable que je ressens, c'est une forme de liberté dans ce qu'on appelle la passion, c'est ce qui va me rendre heureux. Et la finalité dans cette approche de définition, c'est quand on aime, on a tous les droits. Pourquoi j'aurais pas le droit ? Puisque j'aime. Et le monde va aussi proposer un ou plusieurs objets, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux aimer ? Ben, je peux aimer un animal. J'avais été choqué il y a 5 ans quand l'Allemagne venait juste d'interdire, d'avoir un animal comme un concubin. Je peux aimer une statue. Je peux aimer un partenaire, quel qu'il soit. Et puis, pourquoi pas, je peux en aimer plusieurs en même temps. L'objet est vraiment large dans le monde. Il est presque sans limite, l'objet de l'amour. Et le leitmotiv, c'est du moment que ça ne fait de mal à personne, eh bien, c'est bien. C'est OK, ça me fait du bien. Conclusion, c'est bien d'aimer ça, 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 ça ou ça. Eh bien, la parole de Dieu, la plupart du temps, elle n'est pas d'accord avec ça. Elle n'est pas en adéquation avec ces propositions du monde qui nous propose un amour à sa manière. On va lire dans 1 Jean 2. Versets 15 à 17, il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Dieu nous donne sa propre définition de l'amour et développe clairement, de manière très claire, les objets de l'amour. Et souvent, il va le faire en excluant ce qu'il ne faut pas aimer. Ce matin, on ne va pas regarder bien sûr en détail comment la Bible parle de l'amour. Je crois que c'est l'affaire d'une vie, voire même plus. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on essaye de saisir ensemble que la Bible encadre cette force intérieure qui est à l'intérieur de chaque être humain, cet amour, et qu'elle va le porter vers lui-même. Et ça, si on garde ça, et si on repart avec ça, que Dieu encadre cette force puissante qui est à l'intérieur de nous et qui va se le porter vers lui-même. Le leitmotiv du monde n'est donc pas valable avec Dieu. Et je nous encourage à passer du temps à scruter la parole de Dieu pour savoir comment et vers quoi nous devons laisser cet amour se répandre. Seigneur, viens dans nos cœurs, Seigneur, viens nous parler, toi, de ce qu'est l'amour, de ce qu'est cette force, Seigneur, que tu as mis dans notre être intérieur et qui nous fait vivre chaque jour, Seigneur, et dans lequel on a tant à apprendre, Seigneur. On va reprendre Éphésiens 3, versets 14 à 17, je vais relire, si tu veux revenir en arrière au niveau des slides. « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Le texte de ce matin nous parle donc de cette force qui habite dans notre être intérieur. Le désir de Paul n'est surtout pas d'éteindre cette force-là ou de la réduire. Au contraire, il se met à genoux et il supplie le Père pour que nous soyons puissamment fortifiés. En d'autres termes, pour que le Saint-Esprit nous rende forts afin qu'une puissance soit libérée de notre être intérieur. C'est-à-dire que cette force intérieure, eh bien, elle va se traduire par des actions. Parfois, le monde voudrait nous faire croire, à nous chrétiens, religieux, que lui, il encourage au déversement de cette force intérieure. Et bien sûr, on va opposer la religion, la foi en Dieu, en disant que c'est quelque chose qui va te brider d'être chrétien et de croire en Dieu. C'est quelque chose qui va réduire cette force-là qui est à l'intérieur, qui va lui donner moins d'ampleur, moins de force. Le monde va tenter de nous vendre que l'amour libéré de toute contrainte, c'est ça le meilleur. Et c'est ça qui est plus fort. Eh bien, la réponse de la Bible ce matin, c'est n'importe quoi. C'est le Saint-Esprit qui œuvre à l'intérieur de nous, afin que nous soyons forts, Paul nous dit. Mais pas juste fort, fort au point de libérer une puissance. Et cette puissance, c'est le mot en grec, c'est le mot dynamis. C'est la même puissance qui fait des miracles, qui veut atteindre ce qui est impossible à atteindre. Et c'est-à-dire que cette force nous pousse à nous dépasser, à essayer d'atteindre l'impossible par amour. Et c'est vers là que Dieu veut nous amener. C'est dans cet amour fort et puissant que nous sommes appelés à marcher. Car quand nous faisons cela, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Paul va nous dire au verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » En d'autres termes, comment savons-nous en tant que chrétien, que Dieu habite dans nos cœurs? Eh bien, quand l'amour coule à flot de nos cœurs, avec force et avec puissance. Quand j'éprouve un ardent désir d'aimer et que j'ai envie d'accomplir des choses impossibles pour Dieu, là je sais que Dieu habite dans mon cœur. Quand je ne peux pas rester passif à rien faire ou juste en retrait, vous savez, la personne qui observe ce qu'il se passe, là, je ne suis pas en train d'aimer. Mais quand la passion envahit mon cœur, et me pousse à agir. Là, je sais que je suis rempli de la présence de Dieu parce qu'elle va me pousser. Il va y avoir une puissance qui va sortir de mon cœur et qui va faire que je vais agir. En conclusion de ce premier point, Dieu veut que nous soyons remplis d'amour. Amen. C'est-à-dire débordant de force et de puissance pour aimer et faire du bien autour de nous. Et quand cette passion, cet ardent désir se voit, alors je sais que Christ habite dans mon cœur. Peut-être il y en a ce matin qui avait besoin de ressentir plus la présence de Dieu. Eh bien, Paul te dit, la clé, c'est aime. Aime. Laisse cette puissance qui est à l'intérieur de toi. Parce qu'elle est là. Elle est là. Chaque être humain, chaque homme, chaque femme a cette force d'aimer. Aime. Aime selon Dieu. Le deuxième point que je voulais voir ce matin avec vous, c'est que la Bible, donc, après avoir dit qu'elle ne restreint pas l'amour, au contraire, le Saint-Esprit va le pousser vraiment très loin. Et alors qu'il est en train de faire ça, eh bien, Paul nous dit que l'amour est avant tout défini par Dieu lui-même. Parce que, selon, comme Jean le dit, il est amour. Dieu est amour. On continue la lecture, versets 17 à 19. « Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » L'amour se définit premièrement en Dieu, parce qu'il est l'origine de l'amour. Il en est même l'objet principal. Ceux qui n'en sont pas convaincus, ouvrez votre Ancien Testament et vous verrez que le commandement numéro un, c'est que Dieu soit l'objet principal, premier. Vous pouvez utiliser tous les adjectifs qui le mettent à la première place. Et toute la Bible va nous décrire cela. Paul, là, dans le texte, utilise les mots « enraciné » et « fondé » dans l'amour. Nous savons que, en lisant d'autres passages de la Bible, que le fondement de toute chose, c'est Jésus. C'est lui, c'est sur lui que nous sommes fondés, enracinés et que nous grandissons. Donc Dieu est bien le fondement de notre amour. C'est parce qu'il est amour et qu'il nous a aimés le premier que nous pouvons aimer à notre tour. Et Paul continue en disant dans sa prière que nous puissions arriver à connaître l'amour de Christ qui est plus grand que tout. Il va dire qu'il surpasse tout. Et quand nous sommes alors en contact avec cet amour-là, cet amour extraordinaire, eh bien, il y a un miracle qui a lieu. Est-ce que vous aimez les miracles ? Moi, j'aime les miracles. Ce miracle, Paul dit, c'est que nous sommes remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand nous sommes en contact avec l'amour de Christ, eh bien, c'est à ce moment-là que nous sommes remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh ! Waouh ! Je pense qu'il y a deux attitudes face à ce verset. Soit on traite la Bible d'hérétique, c'est fou ce qui est dit là, soit on l'accepte par la foi. Être en contact avec l'amour de Christ, c'est être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dans le premier point qu'on a vu, Paul nous disait qu'en manifestant un amour fort et puissant, une passion ardente pour Dieu, alors on avait l'assurance que Dieu habitait en nous. Et là, il va encore plus loin. Il nous dit que quand nous comprenons et que nous recherchons l'amour de Christ, d'être au contact de cet amour-là, cet amour parfait, alors nous recevons en échange la plénitude de la présence de Dieu en nous. Waouh! Waouh! L'amour de Christ, c'est cet amour qui aime de manière inconditionnelle, qui espère tout, qui ne cherche point son propre intérêt, qui aime jusqu'à offrir sa vie pour ses amis. C'est ça l'amour de Christ. Seigneur, on a tant besoin que tu nous aides, Seigneur, à découvrir cet amour, Seigneur. Et on comprend que Paul veuille qu'on connaisse la hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur, Seigneur. C'est tellement immense pour nous, Seigneur. Mais on sait, Seigneur, que tu nous dis que si on le recherche, Seigneur, alors tu viens habiter dans nos cœurs et on peut découvrir la plénitude de ta présence en nous, Seigneur. Amen, Seigneur. On va passer un temps de prière à la fin. Je vais juste finir avec un petit troisième poème. C'est le petit morceau du verset 18 où il est dit « Avec tous les saints ». Avec tous les saints. L'amour se partage. On ne peut pas être égoïste, l'amour. Ça se partage. D'ailleurs, une des grandes défenses de la doctrine chrétienne de la Trinité, du Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit, c'est bien celle de l'amour. Dieu n'a pas attendu de faire naître sa création pour aimer. Est-ce qu'on a vraiment conscience de ça? Dieu ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin d'aimer quelqu'un. Ça, ce n'est pas passé comme ça. Dieu aime depuis toujours. De toute éternité, il est amour. De toute éternité, le Père aime le Fils. Le Fils aime l'Esprit. L'Esprit aime le Père. Le Fils aime l'Esprit. L'Esprit aime le Fils. Le Père aime l'Esprit, etc. Il y a déjà une relation parfaite d'amour qui existe de toute éternité. Et cette capacité que nous avons à aimer, nous, elle nous vient de là. Elle nous vient de Dieu. Elle nous vient du fait que aimer, ça existe depuis toute éternité. Et c'est pour ça que trois choses demeurent et que la plus grande, c'est l'amour. En Dieu, l'amour se partage, donc depuis toujours. Et donc, entre nous, chrétiens, l'amour se partage aussi. Pas difficile à comprendre. L'amour se partage aussi. Aimer se fait en communauté, avec tous les saints. Les uns avec les autres, les uns envers les autres. Je suis très attristé quand j'entends parfois des personnes qui se contentent de vivre une vie communautaire via Internet. C'est très, très triste au regard de ce que la Bible nous encourage à vivre dans l'amour. Dans l'amour. Je ne crois pas qu'au travers de sa souris ou de son clavier, on puisse vivre ces choses-là. L'amour se partage, se donne, se transmet, se reçoit. On a lu au début du message quelques versets sur l'amour fraternel. Et bien sûr, la Bible en est remplie. Hein. J'ai volontairement pas pris les passages les plus connus. Mais je voulais en relire un C'était Romains 12, 10, où il est dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Déjà, c'est fort. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Mais il ne s'arrête pas là, Paul, il continue et il va dire « Et rivalisez d'honneur ou d'estime les uns pour les autres. » C'est ça, réciproque. Les uns pour les autres. En traduction plus littérale, se rivaliser d'honneur les uns pour les autres, ça veut dire soyez le chef dans celui qui va être le premier à honorer l'autre. Ça veut dire n'attends pas que l'autre vienne t'honorer, mais s'il doit y avoir une compétition au niveau de l'Église, c'est bien celle de celui qui va manifester le plus d'amour à l'autre et le plus d'honneur. Voilà ce que Paul est en train de nous dire ici. Waouh! Waouh! Quelle vision de l'amour Dieu a! Et on voit bien que c'est brûlant, que c'est quelque chose qui est puissant et qui vient nous porter en avant. Aimer se fait dans la communauté locale, pas derrière un écran, à la maison, sur son canapé, même si on a dû vivre ça pendant quelques mois à cause du Covid. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait du partage. La possibilité de donner une part de sa vie à l'autre. C'est ça, aimer selon Dieu. Ça veut dire que j'accepte de donner une part de ma vie à l'autre. Waouh. Waouh. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, je suis là pour toi? Est-ce que vous arrivez à dire ça? Bon, c'est plus facile quand on est mari et femme, c'est sûr. Et une chose, on n'a pas forcément usage de le faire très souvent, mais est-ce qu'on peut aussi lui dire « Je vais faire mon possible pour te montrer que je t'aime. » Je vais faire mon possible pour te montrer que je t'aime. Je pense que c'est important d'être conscient et de garder ça en conscience. Et vous aussi, les jeunes, vous êtes dans le même bateau. Nous sommes appelés à nous aimer au sein de la communauté. Vous êtes d'accord avec ça? Non, pas trop? Et si la Bible insiste, les uns les autres, les uns avec les autres, et même quand on ne se supporte plus, la Bible nous encourage à demeurer les uns avec les autres. On conclut avec le verset 20 et 21. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je trouvais ça intéressant de relire ce passage au regard de l'amour. Parce que c'est vrai que l'amour est très très présent dans ce passage. Et parfois on utilise ces versets-là pour autre chose, pour la puissance dans les dons, pour rechercher une force autre. Mais Paul centre tout autour de la puissance de l'amour. Et donc dans ces derniers versets, Paul nous dit que quand il y a un amour intense et puissant au milieu de nous, quand il y a un amour agissant à vouloir déplacer les montagnes, est-ce que ça fait longtemps que tu as entendu ton frère ou ta sœur te dire des choses folles qu'il a envie de faire pour le Seigneur? Eh bien, c'est ça qui devrait avoir lieu au milieu de nous, au milieu de la communauté. Quand il y a un amour centré sur Jésus et sur Dieu, oui, moi je l'aime lui en premier. Je le mets à la première place de ma vie, même si ça me coûte parfois. Quand il y a un amour qui se déverse les uns sur les autres, eh bien quand cet amour est présent dans l'Église, alors deux choses sont visibles, nous dit l'apôtre Paul. La première, c'est que Dieu peut tout faire. C'est beau. Quand l'amour est présent dans l'assemblée, Dieu peut tout faire. Il ne dit pas quelque chose de moins. Hein. À celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons ou même imaginons. Dieu peut tout faire parce que l'assemblée est pleinement consciente qu'il est au milieu d'elle. Et la deuxième chose, Dieu est glorifié. À lui soit la gloire. Quand l'amour est présent dans l'assemblée, Dieu est glorifié. Si parfois on ne sait pas comment glorifier le Seigneur, ben viens, embrasse un frère, embrasse une sœur par un saint baiser. Et en faisant cela, tu es en train de glorifier ton Dieu parce que tu lui montres qu'il habite en toi et que tu réponds à son appel et que c'est son esprit qui fait ce qu'il veut à l'intérieur de ton cœur. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Je voudrais rappeler l'équipe de louanges, si vous voulez bien.